Eh bien, madame, je vais m'étendre sur ce canapé, vous vous placerez près de moi, vous vous emparerez du sujet et vous en expliquerez vous-même les propriétés à notre jeune élève. Dolmancet se place et madame de Saint-Ange démontre.
Ce sceptre de Vénus que tu vois sous les yeux, Eugénie, est le premier agent des plaisirs en amour. On le nomme membre par excellence. Il n'est pas une seule partie du corps humain dans lequel il ne s'introduise. Toujours docile aux passions de celui qui le meut, tantôt il se niche là.
Elle touche le con d'Eugénie.
C'est sa route ordinaire, la plus usitée mais non pas la plus agréable. Recherchant un temple plus mystérieux, c'est souvent ici.
Elle écarte ses fesses et montre le trou de son cul.
Que le libertin cherche à jouir. Nous reviendrons sur cette jouissance la plus délicieuse de toutes. La bouche, le sein, les aisselles lui présentent souvent encore des autels où brûle son encens. Et quel que soit enfin celui de tous les endroits qu'il préfère, on le voit, après s'être agité quelques instants, lancer une liqueur blanche et visqueuse dont l'écoulement plonge l'homme dans un délire assez vif pour lui procurer les plaisirs les plus doux qu'il puisse espérer de sa vie.
Oh, que je voudrais voir couler cette liqueur!
Cela se pourrait par la simple vibration de ma main. Vois comme il s'irrite à mesure que je le secoue. Ces mouvements se nomment pollution et en termes de libertinage, cette action s'appelle branler.
Oh ma chère amie, laisse-moi branler ce beau membre. Je n'y tiens pas. Laissons-la faire madame. Cette ingénuité me fait horriblement bander.
Je m'oppose à cette effervescence, Dolmancet, soyez sage. L'écoulement de cette semence, en diminuant l'activité de vos esprits animaux, ralentirait la chaleur de vos dissertations.
Eugénie, maniant les testicules de Dolmancet, oh, que je suis fâchée, ma bonne amie, de ta résistance que tu mets à mes désirs. Et ces boules-là, quel est leur usage et comment les nomme-t-on?
Le mot technique est couille. Testicule est celui de l'art. Ces boules renferment le réservoir de cette semence prolifique dont je viens de te parler et dont l'éjaculation dans la matrice de la femme produit l'espèce humaine. Mais nous appuierons peu sur ces détails, Eugénie, plus dépendant de la médecine que du libertinage. Une jolie fille ne doit s'occuper que de foutre et jamais d'engendrer. Nous glisserons sur tout ce qui tient au plat mécanisme de la population pour nous attacher uniquement aux voluptés libertines dont l'esprit n'est nullement populateur.
Mais ma chère amie, lorsque ce membre énorme qui peut à peine tenir dans ma main pénètre, ainsi que tu m'assures que cela se peut, dans un trou aussi petit que celui de ton derrière, cela doit bien faire une grande douleur à la femme.
Soit que cette introduction se fasse par devant, soit qu'elle se fasse par derrière, lorsqu'une femme n'y est pas encore accoutumée, elle y éprouve toujours de la douleur. Il a plu à la nature de nous faire arriver au bonheur que par des peines, mais une fois vaincue, rien ne peut plus rendre les plaisirs que l'on goûte, et celui qu'on éprouve à l'introduction de ce membre dans nos culs est incontestablement préférable à tous ceux que peut procurer cette même introduction par devant. Que de danger d'ailleurs n'évite pas la femme alors. Moins de risques pour sa santé, et plus aucun pour la grossesse. Je ne m'étends pas davantage à présent sur cette volupté. Notre maître à toutes deux, Eugénie, l'analysera bientôt amplement, et joignant la pratique à la théorie, te convaincra, j'espère, ma toute bonne, que de tous les plaisirs de la jouissance, c'est le seul que tu doives préférer.
Dépêchez vos démonstrations, madame. Je vous en conjure. Je n'y puis plus tenir. Je déchargerai malgré moi et ce redoutable membre réduit à rien ne pourrait plus servir à vos leçons. Comment ? Il s'anéantirait, ma bonne amie, s'il perdait cette semence dont tu parles ? Oh là là, laisse-moi la lui faire perdre, hein, pour que je voie comme il deviendra. Et puis j'aurai tant de plaisir à voir couler cela.
Non, non, Dolmancet, levez-vous. Songez que c'est le prix de vos travaux et que je ne puis vous le livrer qu'après que vous l'aurez mérité.
Soit. Mais pour mieux convaincre Eugénie de tout ce que nous allons lui débiter sur le plaisir, quel inconvénient y aurait-il que vous la branliez devant moi, par exemple ?
Aucun, sans doute. Et j'y vais procéder avec d'autant plus de joie que cet épisode lubrique ne pourra qu'aider nos leçons. Place-toi sur ce canapé, ma toute bonne.
Oh Dieu, la délicieuse niche. Mais pourquoi toutes ces glaces ?
C'est pour que, répétant les attitudes en mille sens divers, elles multiplient à l'infini les mêmes jouissances aux yeux de ceux qui les goûtent sur cet ottomane. Aucune des parties de l'un ou l'autre corps ne peut être cachée par ce moyen. Il faut que tout soit en vue. Ce sont autant de groupes rassemblés autour de ceux que l'amour enchaîne, autant d'imitateurs de leurs plaisirs, autant de tableaux délicieux dont leur lubricité s'enivre et qui servent bientôt à la compléter elle-même.
Que cette invention est délicieuse!
Alors, on entend ici une autre voix de Saad, qui est peut-être celle qu'on connaît le mieux, qui est le Saad qu'on a dit pornographe, le Saad, en tout cas, que lui dit non gazé, c'est-à-dire sans voile. On va appeler un chat un chat. Cette volonté d'expliciter les choses de la sexualité, même si le mot n'existe pas, hein, la sexualité, la chose non plus, elle n'est pas pensée ainsi, on parle plutôt de plaisir chez Saad, ce projet s'inscrit dans l'ambition pédagogique qui caractérise l'œuvre de Saad. Quelqu'un qui le lirait en se disant qu'il va s'exciter ou s'amuser tomberait assez vite dans l'ennui, puisque les scènes sexuelles sont très répétitives et puis elles sont surtout ponctuées d'énormes dissertations sur qu'est-ce que le bien, mais l'homme est-il réellement différent de l'animal, mais au fond quel système politique nous faudrait-il. Ah, ça tombe bien, un pamphlet français, encore un effort si vous voulez être républicain, qui déroule la constitution idéale d'une république telle que Saad l'entendrait. Donc, on voit très bien que ce que Saad cherche, en réalité, c'est une démonstration. C'est, comme il le dit lui-même à propos de génie, dans ce texte qui est un de ses plus connus aussi, La philosophie dans le boudoir, c'est ce qu'il appelle une éducation. Lorsqu'on fait rentrer Eugénie dans le boudoir, les personnages disent « nous allons nous livrer à une éducation ». De fait, La philosophie dans le boudoir porte un sous-titre très explicite. Alors, La philosophie dans le boudoir ou les instituteurs immoraux. Instituteurs, on retrouve exactement aussi cette métaphore de la pédagogie dans tous les textes libertins pour le coup de l'époque. Hein. Rappelez-vous des liaisons dangereuses, par exemple, où Valmont considère Cécile comme son écolière. D'ailleurs, son élève, d'ailleurs, lorsqu'on commet une naïveté pour une jeune femme dans la langue du 18e, on appelle ça une école. Donc il y a cette école du libertinage qui structure toute l'époque, qu'on retrouve dans la philosophie dans le boudoir. Mais cela va un peu plus loin chez Saad. Ces instituteurs immoraux, comme il l'appelle, le sous-titre continue, dialogue destiné à l'éducation des jeunes demoiselles. Et puis vous avez une épigraphe, donc une citation mise en exergue très célèbre, la mère en prescrira la lecture à sa fille. Donc toute jeune fille et toute mère qui a une jeune fille à qui il faut un jour ouvrir les yeux sur la réalité de la vie sexuelle qui l'attend, devra faire lire La philosophie dans le boudoir. Il y a donc un projet pédagogique, un projet d'apparence féministe aussi, hein, à l'éducation des jeunes filles, et puis un projet pédagogique qui explique aussi le choix du dialogue, dont je vous ai dit qu'il était vraiment l'instrument de prédilection chez Saad. Le dialogue a deux buts. D'une part, convaincre l'autre, et d'autre part, et c'est surtout ça qui intéresse Saad, lui retirer ses préjugés. En effet, le dialogue est l'espace énonciatif dans lequel il va y avoir combat et reddition de votre adversaire. Vous allez le faire sortir de ses préjugés. Et c'est en ce sens qu'il faut entendre l'éducation chez Saad. Lorsqu'il dit qu'il s'agit d'une éducation pour Eugénie ou lorsqu'il convoque des instituteurs immoraux, il faut comprendre éducation au sens fort, au sens presque étymologique, hein, ce qui vous sort ex et qui vous conduit hors, hein, ex ducere. En ce sens, Saad a une vision de l'éducation très exigeante qui peut nous paraître aujourd'hui immorale à nous, monstrueuse, mais pour lui, éduquer, ce n'est pas forcément apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est d'abord retirer tout le faux savoir qui pour lui relève des conventions qu'on nous inculque. Éduquer quelqu'un, c'est donc le débarrasser avant de lui donner un autre contenu. C'est une éducation qu'on pourrait dire toujours négative. Éduquer, c'est retirer le faux savoir ou les préjugés qui sont là. C'est une éducation adulte qui ressemble étrangement, d'ailleurs ça a été remarqué par de nombreux critiques, au programme de Kant. Kant qui écrit en 1784, 11 ans avant la philosophie dans le boudoir, mais tout à fait à l'époque de Sade, son célèbre texte, hein, « Qu'est-ce que les Lumières ?»« Was ist Aufklärung ?»« Qu'est-ce que les Lumières ?» nous dit Kant. C'est le célèbre début de son texte. « Les Lumières, c'est la sortie de la minorité. » C'est le moment où l'homme devient un adulte. C'est-à-dire que pour Sade, c'est le moment où l'homme, on dirait nous aujourd'hui, fait du vélo sans les petits trous derrière. Hein, vit sa vie sans béquille. Mais pour, c'est très important pour lui, pour Sade, et c'est aussi très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire du coup être éduqué et être adulte pour un jeune homme comme pour une femme? Ça veut dire ne plus avoir de préjugés. Accepter toutes les pratiques sexuelles. On voit très bien ici l'éloge récurrent de la sodomie, hein, sur lequel on a beaucoup écrit. Sade aimait apparemment beaucoup la sodomie, je ne sais pas pourquoi, personne ne saura jamais, ni peut prétendre le savoir, c'est un fait. À la limite, peu importe. Mais ce qui nous enseigne, c'est qu'en fait, le préjugé qui entoure cette pratique sexuelle est un préjugé. Et du coup, il nous dit aussi, ce qui est totalement inaudible à son époque, il faut distinguer le plaisir sexuel de la procréation. On l'a bien entendu là, une jeune femme, alors vous imaginez, vous vous souvenez des attaques violentes dont Simone de Beauvoir a fait l'objet en 1947, là on est 250 ans plus tard, dans le deuxième sexe, lorsqu'elle a osé consacrer un chapitre à la jouissance féminine, essayant de penser ce que c'était que la sexualité féminine. Comme si, d'ailleurs, à l'époque, tout le monde l'a reproché à Beauvoir en 1947, comme si la sexualité féminine existait hors de sa finalité naturelle, qui était, bien sûr, la reproduction. Sade dit exactement la même chose. Les femmes ont un plaisir et elles doivent le dissocier du fait d'avoir des enfants. Il y a la fonction naturelle et puis il y a le plaisir, ce qui est totalement transgressif, aujourd'hui encore. Je suis désolée, en tout cas, ça l'était au milieu du XXe siècle. Je ne suis pas sûre que ce soit non plus encore une idée totalement acquise, hein, que les femmes puissent comme ça revendiquer un plaisir sans ce que Sade appelle le souci pour la population. À l'époque, c'est vrai qu'au XVIIIe, on est persuadé que la population française décline et qu'il faut donc se repeupler. Alors, ce n'est pas du tout, hein, c'est une espèce de fantasme comme il y en a tant. Bon. Donc, du coup, c'est un projet éducatif au sens qui coûte. Donc, il faut apprendre que du coup, il n'y a pas de préjugés, que toutes les pratiques sexuelles, objectivement, se valent. Le seul critère pertinent pour ça, c'est le goût. Vous aimez ou vous n'aimez pas. C'est tout. Mais l'Église, ni la nature, n'a rien à voir avec les pratiques sexuelles. Vous aimez, vous faites. Voilà. Ensuite, c'est très dur d'être éduqué ainsi. C'est bien plus confortable qu'on nous dise qu'il y a certaines pratiques qui sont tolérées, et puis les autres, elles sont immorales, elles ne sont pas naturelles, elles sont dégradantes, tout ce que tu veux. C'est plus confortable. Sade nous dit non, 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 en fait, il faut tout accepter. De la même manière, il nous dit, il n'y a pas de Dieu dans le monde. La vie, c'est aujourd'hui, maintenant, dans le temps qui nous est donné. C'est pas la peine de se dire qu'on se rachètera dans l'au-delà, qu'on fera mieux après. Non. Sade dit, Dieu n'existe pas. Dieu est une chimère que l'homme, dit-il, a inventé pour se rassurer. Pourquoi ? Parce que c'est horrible de se dire que quand on meurt, il ne se passe plus rien. Donc, c'est rassurant de se dire, là encore, plus confortable, d'être éduqué de manière religieuse, en se disant, peut-être que quelque chose existe après, peut-être que notre âme survit. Et là, ça dit l'âme, deuxième chimère. Troisième, l'âme, ça n'existe pas. Nous ne sommes que matière. Donc, il n'y a pas d'un côté une substance physique et de l'autre un esprit qui survivrait. Nous ne sommes qu'une irrigation de corps, de nerfs, pardon, de réseaux, de circulation sanguine, qui fait que lorsque vous mourrez, rien ne reste, objectivement. Bien sûr, tout ce que vous avez écrit auprès de ceux que vous avez aimés, mais votre vie, objectivement, s'arrête. Ce qui, du coup, pour Sade, est très angoissant, et pour nous aussi. Mais s'inverse chez lui en une espèce de philosophie extrême, puisque nous n'avons que cette vie. Parce que c'est ça, être libre. C'est savoir qu'il n'y a pas une autre autorité qui va nous juger, ni une autre vie qui nous attend après. Il faut du coup essayer soi-même de se juger tout le temps, parce que c'est trop facile d'être un scélérat toute sa vie en se disant « Dieu me jugera ». Non, n'y a pas de Dieu. Donc c'est nous, c'est à nous d'être justes le temps que nous sommes là. Et puis Sade se dit aussi, la vie, il faut la vivre de la manière la plus forte possible, parce qu'il n'y a pas une seconde chance. À la fin, lorsqu'il est à Charenton, à 74 ans, il a vécu très longtemps à son époque. En plus, vu la vie qu'il a eue, les maladies, les pratiques sexuelles atroces qu'il s'inflige lui-même en prison, parce qu'il faut bien qu'il se divertisse et qu'il tente surtout, plus exactement, d'éteindre les appétits sexuels très forts qui sont les siens, jusqu'à 50 ans. À 50 ans, il dit « tout s'est tari ». Et il dit « je suis bien plus tranquille, en fait ». Mais jusqu'à 50 ans, il a de forts besoins sexuels. Eh bien, malgré tout ce qui se fait, ces maladies, il vit quand même très longtemps. Vraiment. Et non, les gens, à son époque, meurent à 60 ans. Pas à 74 ans, surtout après 30 ans de prison, etc. Bon. Quelqu'un vient le voir à Charenton, alors qu'il est à 2 ans avant sa mort, et lui dit « mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on te reproche, en fait ? Qu'est-ce que tu as fait à tous ces gens pour que, même en 1814, sous la Restauration, alors que Louis XVIII vient d'arriver, on continue à parler de toi comme d'une légende noire ?» Il dit « j'ai trop vécu. J'ai voulu vivre trop. » Parce qu'il savait très bien, justement, qu'après, il allait se retrouver dans une fosse où il sera peut-être semé dessus des glands, comme il le dit dans son testament, dans une formule un peu humoristique, bien sûr, pour nous. Hein, on entend quand même ce qu'il veut dire. Mais en même temps, on est dans la fosse, c'est fini. Donc ce qu'il faut faire, quand on a envie de le faire, c'est maintenant. Alors c'est ça l'éducation. C'est un programme assez radical. Et Sade nous dit, être éduqué ou éduquer une jeune fille ou un garçon, mais les jeunes filles, c'est encore plus important, c'est lui retirer tous les hochets qu'elle a dans la main. Le bien, le mal, la convention, Dieu, certaines pratiques sexuelles autorisées, la norme, comme on dit aujourd'hui, hochet. Il faut accepter de vivre sans hochet. Et Sade nous dit, c'est très difficile. La plupart des hommes, des humains, je veux dire, ont tendance, et c'est bien légitime, à se rassurer, à s'accrocher. Donc c'est un programme assez radical. Qui pose aussi une dernière question sur ce volet, celle du féminisme de Sade. On a tout dit là-dessus, hein. Sade le libérateur, Sade le misogyne. C'est vrai que dans son œuvre, il y a à peu près tout. Il y a en particulier dans l'histoire de Justine des discours très violents contre les femmes. Il y a un personnage qui s'appelle Gernande dans l'histoire de Justine, parmi les monstres qu'elle croise sur sa route, qui lui fait tout un discours de mépris pour les femmes, d'infériorité sexuelle, physiologique. Les femmes sont vraiment en bas de l'échelle humaine. Et pourtant, Sade a donné, par exemple, a fait en sorte que tous ces personnages soient des femmes, ce qui est quand même troublant. Justine, Juliette, Aline et Valcourt, ce ne sont que des narratrices. Les historiennes des 120 journées, les femmes sont partout, on va le voir aussi. Elles sont dans ces comédies, ce sont les femmes qui font rire, ce sont les femmes qui racontent. Elles ont donc les pleins pouvoirs narratifs dans son œuvre, ce qui est assez troublant. On s'aperçoit en réalité que Sade, je ne crois pas qu'il était misogyne, enfin j'en sais rien, qu'il est plutôt fasciné par la féminité. Et il est fasciné et du coup agacé parfois par le fait qu'un corps de femme, dit-il, on ne peut pas le comprendre parce que ses organes génitaux sont invisibles. Et il y a quelque chose pour lui d'assez insupportable et d'assez fascinant en même temps, le grand mystère du corps féminin, le grand mystère de la gestation. Qu'est-ce que l'utérus ? Personne ne l'a jamais vu, en tout cas ça ne se voit pas comme ça. Le grand mystère aussi du plaisir féminin. Ce qui explique que le corps féminin va être souvent, dans l'œuvre de Sade, l'objet de scènes assez cruelles, où on va voir, par exemple, des femmes enceintes éventrées, enfin, pardon de rentrer dans des scènes un peu... Alors on se dit, ah, c'est monstrueux. Oui, bien sûr, dans le contexte, c'est monstrueux. Mais associé à tout ce qu'il dit des femmes dans le reste de son œuvre, on peut y voir plutôt une façon... radicale, puis on est dans la fiction, hein, il n'a jamais éventré personne, une façon radicale d'aller voir un peu ce que c'est qu'un corps de femme. Hein, à l'époque, on ne sait pas comment ça marche. Il est où le bébé ? Comment ça ? Vous voyez, et vous savez, les théories médicales de l'époque n'avaient toujours pas réglé la question de savoir si c'était la semence, comme on disait, masculine qui donnait naissance à l'enfant ou si c'était la semence féminine. Il y a toute une école médicale au XVIIIe siècle qui pensait que seule la semence masculine faisait l'enfant et que la femme était une espèce de couveuse qui accueillait un enfant qui était tout prêt à l'emploi, qui arrivait et qu'elle hébergeait pendant 9 mois au chaud. Une espèce de ventre juste passif et que la substance féminine n'avait aucun rapport. Vous voyez que c'est des questions à l'époque de Sade qui sont très complexes. On ne sait pas encore en réalité qu'il faut les deux, la femme n'est pas qu'un corps d'accueil. Hein. Donc il y a un débat chez Sade qui, à mon avis, en fait peut-être pas un féministe, mais quelqu'un qui envie quand même la liberté des femmes, le fait d'avoir des organes invisibles, le fait de pouvoir faire semblant de prendre du plaisir quand elles n'en prennent pas, alors que les hommes ne peuvent pas faire ça. Sade, il dit, du coup, les femmes, c'est assez troublant, parfois on ne sait pas. Du coup, elles ont une liberté supplémentaire. Et l'infâme Gernande dans Justine qui dit « les femmes sont inférieures, c'est des bêtes, c'est nos esclaves », à un moment donné, il dit à Justine « déshabille-toi ». Justine se déshabille. Et là, il y a ce dialogue étrange où il la passe en revue et il dit « la belle chose qu'une fille », dit Gernande, « mais quel dommage que ça soit vide, là ». Et là, son ami lui dit « oh, ça, disait l'autre, rien de plus infâme que ce vide ». Mais vous voyez, on entend derrière la fascination, justement, pour une génitalité plus mystérieuse hein, que celle des hommes. Donc je pense que Sade aurait aimé, d'ailleurs il le dit, être une femme. Mais pas toujours, pouvoir être les deux. C'est ce que les personnages, parce que dans son époque, dans la société, il valait mieux être un homme, hein, quand même, c'est clair. Au début de la philosophie dans le boudoir, il y a le personnage, c'est une femme, de Madame de Saint-Ange qui dit « moi j'aime les deux, j'aime coucher avec des hommes, j'aime coucher avec des femmes, j'appelle ça être amphibie ». Sade aussi c'était son idéal, il a tout essayé, il a tout goûté au buffet du plaisir. On ne pense pas les choses comme aujourd'hui en termes d'hétéro-homosexualité, lui il goûte tout. Et il dit que parfois, un des plaisirs de ces soirées, c'est justement d'avoir l'illusion d'être une femme. Donc, la question du féminin est sans doute plus complexe hein, qu'on ne l'a dit chez lui. Alors, j'avance un peu. Sinon, vous dites à minuit, je suis toujours là. Sade a aussi, on a vu sa philosophie, Sade a aussi été un grand théoricien de la fiction et de l'art à son époque. Il faut aussi entendre peut-être son œuvre esthétique, hein, la partie de son œuvre dans laquelle il a vraiment tenté de comprendre ce que devait être un bon récit et l'effet sur le spectateur. Alors, c'est un passage qui se trouve dans l'idée sur les romans, la préface dont Sade accompagne son grand recueil de nouvelles qu'il signe, qui s'appelle « Les crimes de l'amour » en 1800. C'est une des rares préfaces théoriques de Sade.
« Je n'exige essentiellement de toi qu'une seule chose, c'est de soutenir l'intérêt jusqu'à la dernière page. » Tu manques le but si tu coupes ton récit par des incidents ou trop répétés ou qui ne tiennent pas au sujet. Que ce que tu te permettras soit encore plus soigné que le fond. Tu dois des dédommagements au lecteur quand tu le forces de quitter ce qui l'intéresse pour entamer un incident. Il peut bien te permettre de l'interrompre, mais il ne te pardonnera pas de l'ennuyer. Que tes épisodes naissent toujours du fond du sujet et qu'ils y rentrent. Si tu fais voyager tes héros, connais bien le pays où tu les mènes. Porte la magie au point de m'identifier avec eux. Songe que je me promène à leur côté, dans toutes les régions où tu les places, et que peut-être, plus instruit que toi, je ne te pardonnerai pas ni une invraisemblance de mœurs, ni un défaut de costume, et encore moins une faute de géographie. Comme personne ne te contraint à ces échappées, il faut que tes descriptions locales soient réelles, où il faut que tu restes au coin de ton feu. C'est le seul cas dans tous tes ouvrages où l'on ne puisse tolérer l'invention, à moins que les pays où tu me transportes ne soient imaginaires, et dans cette hypothèse encore, j'exigerai toujours du vraisemblable. Évite la fêterie de la morale. Ce n'est pas dans un roman qu'on la cherche. Si les personnages que ton plan nécessite sont quelquefois contraints à raisonner, que ce soit toujours sans affectation, sans la prétention de le faire, ce n'est jamais l'auteur qui doit moraliser, c'est le personnage, et encore, le lui permettons que quand il y est forcé par les circonstances. Une fois au dénouement, qu'il soit naturel, jamais contraint, jamais machiné, mais toujours né des circonstances, je n'exige pas de toi, comme les auteurs de l'encyclopédie, qu'il soit conforme au désir du lecteur. Quel plaisir lui reste-t-il quand il a tout deviné ? Le dénouement doit être tel que les événements le préparent, que la vraisemblance l'exige, que l'imagination l'inspire. Avec ces principes que je charge ton goût et ton esprit d'étendre, si tu ne fais pas bien, au moins feras-tu mieux que nous. Car il faut en convenir, dans les nouvelles que l'on va lire, le vol hardi que nous nous sommes permis de prendre n'est pas toujours d'accord avec la sévérité des règles de l'art, mais nous espérons que l'extrême vérité des caractères en dédommagera peut-être. La nature, plus bizarre que les moralistes ne nous la peignent, s'échappe à tout instant des digues de la politique, de ceci que ceci voudrait lui prescrire. Uniforme dans ses plans, irrégulière dans ses effets, son sein toujours agité ressemble au foyer d'un volcan d'où s'élancent tour à tour ou des pierres précieuses servant au luxe des hommes ou des globes de feu qui les anéantissent. Grande quand elle peuple la terre d'Antonin et de Titus, affreuse quand elle y vomit des Andronicus ou des Néron, mais toujours sublime, toujours majestueuse, toujours digne de nos études, de nos pinceaux et de notre respectueuse admiration. Parce que ses desseins nous sont inconnus, et qu'esclaves de ses caprices ou de ses besoins, ce n'est jamais sur ce qu'ils nous font éprouver que nous devons régler nos sentiments pour elle, mais sur sa grandeur, sur son énergie, quels qu'en puissent être les résultats.
Alors, très beau texte hein, de Sade, un de ceux que je préfère et un des rares dans lesquels il définit ce qu'est pour lui la fiction. Quelque chose qui ne doit jamais ennuyer le lecteur. Hein, il faut toujours capter son intérêt. Et surtout, quelque chose qui est toujours dissocié de la morale. Hein, Sade nous montre bien que nous, lecteurs, notre plaisir, et nous, spectateurs, c'est la même chose au théâtre, n'est jamais moral. C'est la grande philosophie esthétique du XVIIIe, ce qu'on a appelé l'intensivisme, et Diderot l'a théorisé aussi un peu avant Sade, qui montre qu'en fait, au spectacle ou à la lecture d'un roman, nous cherchons toujours, nous, ce qui est le plus intense pour nous, ce qui nous fait le plus d'effet. Or, ce qui nous fait le plus d'effet n'est jamais moral. Par exemple, comme spectateur ou lecteur de fiction, ce qui va le plus nous marquer et donc nous faire l'effet le plus fort, c'est le juste supplicié. Ce n'est pas le méchant sanctionné. Quand vous voyez un film dans lequel le méchant est puni à la fin, vous dormez bien après. Et donc, en termes d'effet, c'est assez faible. Alors que quand dans le même film, le juste est puni, là vous dormez mal. Mais en même temps, vous prenez un plus grand plaisir. Ce plaisir est dissocié de la morale. C'est ce que Sade analyse de manière très intéressante et ce qu'il va d'ailleurs mettre en pratique dans son œuvre, ce qui fait qu'effectivement, l'histoire de Justine est sans doute plus intéressante que celle de Juliette, même si elle est plus douloureuse. C'est cette dissociation qui est pour lui très importante. En plus, dernier point, ce que Sade nous exige de la fiction, c'est de nous montrer la vérité de l'homme. Mais il le dit avec des métaphores à la fin de son texte. La vérité de l'homme, il utilise deux métaphores. Elle est comme un torrent qui sort des digues qui sont construites pour le contenir. La vérité de l'homme, elle est toujours une espèce de débordement, de transgression. Autre métaphore qu'il utilise dans le texte, une éruption volcanique. Il dit c'est ça la fiction qui fait sortir la vérité. C'est comme un volcan. Tout sort du volcan. Les pierres les plus précieuses, les diamants, qui sont donc les beaux humains, les gens de bien, et puis les cailloux sombres, stériles, les nérons, les monstres. C'est ça l'humain, il y a de tout. Et donc la fiction pour ça devra elle aussi nous montrer les personnages tels qu'ils sont et non pas tels que nous voudrions qu'ils soient, c'est-à-dire avec des diamants, et aussi avec des cailloux stériles. Ce qui suppose, quand on lit Sade, qu'on accepte l'idée hein, que la vérité de l'homme soit complexe, ne soit surtout pas monochrome, mais qu'elle ait en tout cas sa part de noir. Alors, cette noirceur, on sautera juste peut-être le 6, parce que sinon on ne va pas y arriver, hein, faire le 5 et le 7, pardon, cette note de régie. Cette noirceur, elle s'incarne quand même, on est bien, il faut bien en parler, dans ce qu'on a appelé le sadisme. Est-ce que Sade théorise le sadisme, c'est-à-dire l'association de la jouissance et de la souffrance? Oui. Il analyse dans plusieurs passages de son œuvre, et en particulier là, dans l'histoire de Justine, quel plaisir nous pouvons trouver à faire le mal. Alors, il faut entendre aussi le Sade, théoricien du sadisme.